Chapitre 22. Les Bennett furent engagés à dîner chez les Lucas, et durant la meilleure partie du jour, Mademoiselle Lucas eut encore la complaisance d'écouter M. Collins. Elisabeth saisit l'occasion de l'en remercier. « Cela le met en bonne humeur, dit-elle, je vous suis vraiment obligée. » Charlotte assura son amie que le plaisir d'être utile la dédommageait bien du sacrifice de son temps. Ce procédé était des plus aimables, mais la bonté de Charlotte allait au-delà de ce qu'Elisabeth pouvait imaginer, ne tendant à rien de moins qu'à la préserver pour jamais de tout retour de la tendresse de M. Collins en se l'attirant à elle-même. Tel était le plan de Mademoiselle Lucas, et le soir, lorsqu'ils se quittèrent, les apparences étaient si favorables qu'elle se serait crue assurée du succès si le départ de M. Collins n'eût été si proche. Mais en cela, elle ne rendait point justice au caractère indépendant de M. Collins, car celui-ci, le lendemain, s'esquiva fort doucement de Longbourn et vint à Lucas Lodge se jeter à ses genoux. Il eut soin d'éviter les regards de ses cousines, dans la croyance que, si elle le voyait sortir, elle devinerait aisément le motif de sa promenade. Et il n'eût voulu pour rien au monde que cette démarche fût connue avant le succès, quoiqu'il en fût presque assuré, et avec raison, Charlotte l'ayant passablement encouragé. Mais l'aventure du mercredi le rendait en soi peu défiant. Sa réception, cependant, fut des plus flatteuses. Mademoiselle Lucas l'aperçut comme il s'avançait vers la maison et se hâta d'aller, comme par hasard, à sa rencontre dans l'avenue. Mais elle ne s'attendait pas encore à toute la tendresse et à toute l'éloquence qu'elle allait rencontrer. Dans un aussi court intervalle que le permirent les longues phrases de M. Collins, tout fut décidé entre eux à leur mutuelle satisfaction. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, déjà, il la priait de nommer le jour qui devait le rendre le plus heureux des mortels. Et bien qu'une telle demande ne pût être écoutée en ce moment, Charlotte était loin de la lui vouloir refuser par caprice. Comment une femme sensée eût-elle pu trouver le moindre plaisir à se voir courtisée par un être aussi stupide? Et le désir de trouver un établissement honnête ayant seul engagé Mademoiselle Lucas à accepter sa main, peut lui importer d'obtenir cet établissement alors ou dans quelques mois. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas fut sur le champ demandé, ils l'accordèrent avec joie. La situation de M. Collins rendait ce mariage très avantageux pour leur fille, à laquelle il ne pouvait donner que peu de bien, et ses espérances d'ailleurs étaient fort belles. Lady Lucas se mit à calculer, avec un intérêt tout particulier, combien d'années M. Bennett pourrait encore vivre, et Sir William remarqua d'un air important que lorsque M. et Mme Collins seraient possesseurs de la terre de Longbourn, il faudrait nécessairement qu'ils se fissent présenter à la cour. Ce mariage, en un mot, comblait de joie toute la famille. Les jeunes sœurs eurent l'espoir d'être présentées dans le monde un ou deux ans plus tôt qu'elles n'avaient jusqu'alors osé l'espérer, et les frères étaient délivrés de la crainte de voir Charlotte vieille fille. Charlotte elle-même était passablement tranquille, elle avait atteint son but et pouvait à loisir se rendre compte du succès de ses soins et de l'avenir qui l'attendait. Ses réflexions, en général, furent assez satisfaisantes. M. Collins, il est vrai, n'avait ni bon sens ni esprit. Sa personne était fade, sa conversation plate, son attachement pour elle, sans doute imaginaire, mais c'était un mari. Et sans avoir d'ailleurs une trop haute opinion des hommes, ni du mariage, elle songeait à s'établir. C'était le seul parti honorable pour une fille bien née, mais peu riche, et quelque incertain qu'on fût d'y trouver le bonheur, c'était le meilleur préservatif contre le besoin. À l'âge de 27 ans, et n'ayant jamais été belle, elle sentait tout le prix d'une pareille rencontre. La circonstance la moins agréable dans cette affaire, c'était la surprise qu'elle causerait à Elisabeth Bennett, à l'amitié de laquelle elle tenait beaucoup. Elisabeth, se disait-elle, me blâmera sans doute, et bien que sa résolution ne pût être ébranlée, Elle était affligée de ne pouvoir espérer l'approbation de son amie. Elle résolut donc de lui apprendre elle-même cette nouvelle, et dans cette intention, dit à M. Collins, lorsqu'il retourna dîner chez Mme Bennet, de ne point parler à la famille de ce qui venait de se passer. Une promesse d'être discret fut faite sans peine. La garder était chose un peu plus difficile, car la curiosité qu'avait excitée son absence éclata dès qu'il fut de retour, par des questions si directes qu'il lui fallut quelque adresse pour les éluder, et sa discrétion était d'autant plus méritoire qu'il avait un désir extrême de publier l'heureux succès de ses amours. Comme il partait le jour suivant de trop grand matin pour pouvoir parler à personne de la famille, la cérémonie de l'adieu se fit au moment où ces dames allaient se retirer pour la nuit, et Mme Bennet, avec politesse et cordialité, l'assura du plaisir qu'elle aurait toujours à le revoir à Longbourn. « Cette invitation, madame, m'est d'un prix inestimable, répondit-il, et connaissant votre bonté, c'est à quoi je m'attendais. Soyez assurée que j'en profiterai aussitôt qu'il me sera possible. » L'étonnement fut général. Et M. Bennet, qui ne se souciait nullement d'un si prompt retour, dit avec vivacité « Mais, mon cher monsieur, ne craignez-vous point, en vous absentant ainsi, d'offenser Lady Catherine ? Il vaut mille fois mieux négliger vos parents que de vous exposer au blâme de votre patronne. En vérité, monsieur, le tendre intérêt que vous prenez à moi mérite toute ma reconnaissance, répondit M. Collins. Mais soyez assuré que je ne ferai point une démarche si importante sans le consentement de cette noble dame. Vous ne sauriez être trop sur vos gardes, car la satisfaction de Lady Catherine doit être votre unique affaire, et si vous croyez lui déplaire en revenant ici, ce qui me semble assez probable, restez, croyez-moi, tranquillement chez vous, nous ne nous en fâcherons point, je vous assure. Monsieur, je sens comme je le dois cette preuve de votre amitié, et je vous promets qu'à peine arrivé à Hunsford, je vous en témoignerai par écrit ma vive reconnaissance, n'oubliant pas aussi de vous rendre mes très humbles grâces de toutes les bontés dont vous m'avez comblé durant mon séjour dans Hertfordshire. Quant à mes charmantes cousines, bien que j'espère ne point être longtemps sans les revoir, je veux aujourd'hui leur souhaiter bonheur et santé, sans même excepter ma cousine Elizabeth. Ces dames lui répondirent très poliment et se retirèrent tout étonnées de projets d'un si prompt retour. Madame Bennet pensait avec plaisir que, peut-être, il comptait offrir ses vœux à l'une de ses plus jeunes filles, et Mary se fut aisément décidée à les agréer. En effet, Mary admirait beaucoup ses talents, vantait la solidité de son esprit, et, quoique assurément moins savant qu'elle, ne pouvait-il pas faire de rapides progrès, ayant pour l'encourager à l'étude un exemple tel que le sien. Le lendemain vit s'évanouir tous ses beaux projets. Mademoiselle Lucas vint à Longbourn aussitôt après le déjeuner et, dans un entretien particulier avec Elizabeth, raconta l'événement de la veille. La pensée que M. Collins pourrait se croire amoureux de Charlotte s'était ces deux derniers jours plus d'une fois présentée à Elizabeth. Mais que Charlotte le pût encourager lui semblait aussi impossible que de l'encourager elle-même. Et sa surprise fut telle qu'elle ne put d'abord le cacher, et elle s'écria « Promise à Monsieur Collins ! Ma chère Charlotte, cela est impossible !» L'air tranquille dont Mademoiselle Lucas avait fait son récit ne put tenir contre un reproche si direct, bien qu'elle ne se fût attendue à rien de moins. Mais aussitôt se remettant, elle reprit avec assurance. « Pourquoi cette surprise, chère Elizabeth ? Croyez-vous impossible que M. Collins se fasse estimer d'aucune femme, parce qu'il n'a pas eu le bonheur de réussir auprès de vous ?» Mais Elizabeth, revenant de son premier trouble, fit un effort sur elle-même, et l'assura avec calme que l'espoir de l'avoir pour parente lui était fort agréable, et qu'elle lui souhaitait le bonheur le plus parfait. « Je vois votre pensée, reprit Charlotte. » Vous devez être surprise, et très surprise, en vous rappelant qu'il y a deux jours, c'était vous que M. Collins voulait épouser. Mais lorsqu'à votre aise vous y aurez réfléchi, ma conduite ne vous paraîtra pas si extraordinaire. Je ne suis point romanesque, vous le savez, je ne l'ai même jamais été. Je n'ambitionne qu'un ménage aisé, un chez-moi, et considérant la bonne réputation de M. Collins, ses raisons et son état, je crois que mes espérances de bonheur sont tout aussi fondées que celles de la plupart des gens qui se marient. « Sans doute, » répondit Elisabeth. Et après un silence embarrassant pour toutes deux, elles allèrent rejoindre le reste de la famille. Charlotte ne demeura que peu d'instants, et Elisabeth eut alors le loisir de réfléchir à ce qu'elle venait d'apprendre. Que M. Collins, dans l'espace de 3 jours, eût fait 2 offres de mariage, cela lui paraissait, il est vrai, une chose bizarre. Mais que ces offres fussent acceptées, c'est ce qu'elle ne pouvait comprendre. Plus d'une fois, elle s'était aperçue que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que, dans l'occasion, Charlotte eût sacrifié son bonheur intérieur aux avantages de la fortune. Charlotte, la femme de M. Collins, était pour elle une pensée humiliante, et le chagrin de voir une amie se dégrader et perdre dans son estime s'accroissait encore par l'affligeante conviction qu'il était possible que cette même amie pût trouver quelque bonheur dans le sort qu'elle avait choisi. Fin du tome 1.